le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons aujourd'hui Pascal Renaud Grosbras de l'EPUDF, l'Église protestante unie de France. Ce matin, le pasteur Renaud Grosbras nous parle d'une autre confiance. Bonjour Pascal Renaud Grosbras.
Bonjour Olivier Petit.
Aujourd'hui, vous nous parlez de confiance, mais c'est quoi au juste la confiance ?
Alors la question, ce serait plutôt à qui, à quoi nous faisons confiance ? Dans confiance, il y a fiance. C'est un mot de l'ancien français qui désigne notre état lorsque nous nous fions à quelque chose, à quelqu'un. À qui, à quoi on se fie ? Dans quel lien on va investir de sa personne avec suffisamment de sécurité pour que ça tienne.
Mais finalement, à la question posée, vous répondez donc par une question. Ce matin, vous nous racontez l'histoire d'un jeune homme qui se pose la question de la confiance.
Cette histoire se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, les versets 16 à 22. Un homme s'approche de Jésus et lui demande « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon, Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, obéis aux commandements. Lesquels ? » demande-t-il. Jésus répond « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore ?»« Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste parce qu'il a de grands biens. C'est donc l'histoire d'un jeune homme riche. Un jeune homme riche, mais triste. Il a tout, mais il lui manque encore quelque chose. La question, c'est quoi ? Qu'est-ce qui lui manque ? Je crois qu'en fait, cette histoire-là, c'est une histoire de confiance. Nous, les êtres humains, où mettons-nous notre confiance ? Dans notre vie quotidienne ? Dans nos grands projets ? Dans nos petites contradictions ? Où mettons-nous notre confiance ? Et toi ? Jeune homme riche, mon voisin, mon prochain, mon frère, où mets-tu ta confiance ? Dans ton héritage ? Dans ta famille avec son histoire, ses racines, ses réussites ? Dans ton patrimoine ? Un patrimoine, c'est important, c'est un nom, une appartenance, une place dans la société, un rôle aussi souvent. Où mets-tu ta confiance ? Dans ton compte en banque ? Il est tellement plus confortable dans cette vie d'avoir la certitude du lendemain. Ou dans tes habitudes, ton quotidien, dans la permanence du petit matin qui succède à la nuit. Où mettons-nous notre confiance ? Dans un système, des croyances, des valeurs, une religion peut-être ? Toi, jeune homme riche, tu dis vouloir posséder la vie éternelle. Tu possèdes déjà tellement de choses. Tu veux posséder aussi la vie éternelle. Mais ce jour-là, face à cet homme-là, voilà que tu doutes de toi-même. Tu demandes à Jésus « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Mais il ne répond pas à ta question. Il te parle d'autre chose. Il te parle d'entrer dans la vie avec Dieu. On ne possède rien. On entre dans la vie. Tu lui disais que tu avais déjà tout fait. Il te répond que la question n'est pas là. La perfection, ce n'est pas d'avoir tout fait, ni de tout posséder, c'est bien autre chose. Une chose qui lui fait te demander l'extraordinaire, tout vendre et tout donner. Il te demande de tout abandonner. tout ce qui faisait ta sécurité, tout ce qui faisait ton importance dans ce monde, tout ce qui te semblait tellement naturel, il te demande de tout abandonner, de te dépouiller de tout. Sauf d'une chose, une seule, la seule au fond, qui soit une véritable sécurité. Martin Luther, le réformateur, disait « Là où est ton cœur, là est ton Dieu. » Ou pour le dire autrement, « Là où est ta confiance, là est ton Dieu. » Pour nous, les humains, ça se joue comme ça. Les choses auxquelles nous faisons confiance, nous avons une certaine tendance à en faire des dieux. Ce qui nous donne notre sentiment de sécurité, nous avons tendance à en faire un dieu. Or, on peut mettre sa confiance dans beaucoup de choses. Dans la permanence de soi, y compris dans nos failles, toujours là, quoi que nous fassions. On peut posséder en propre ses défauts, ses peurs, ses horreurs même, et y tenir beaucoup. Cet autre que je croise dans la rue. Peut-être qu'il met sa confiance dans ses amours ou dans ses haines, parce qu'il a le sentiment qu'elles lui appartiennent et qu'elles le constituent. Parce que nous sommes humains, nous mettons notre confiance dans ce que nous avons en propre. Vraie richesse ou patrimoine qui nous colle à la peau. Croyance ou certitude, habitude ou aveuglement, ce que nous avons et qui nous fait croire à notre propre plénitude. Ce jeune homme riche a confiance dans ce qu'il possède, mais il lui manque quelque chose. Il ne saurait sans doute pas dire quoi exactement d'ailleurs, alors il lui donne un nom un peu générique, la vie éternelle. Même s'il a tout, il a le sentiment qu'il lui reste encore quelque chose. À posséder. Le jeune homme riche croise Jésus et il lui parle de vie éternelle. Jésus, lui, répond en parlant de commandements. Et le lien entre les deux ne saute pas forcément aux yeux. Jésus dit « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon, Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, obéis aux commandements. » En fait, la réponse de Jésus est un peu à côté de la question. Il ne parle pas de vie éternelle, il parle d'entrer dans la vie. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. D'abord, ça veut dire quoi, entrer dans la vie? En principe, on entre dans la vie par la naissance. De quoi s'agirait-il sinon? De quelle vie s'agit-il? Pas de la vie après la mort. Entrer dans la vie, c'est ici et maintenant. C'est peut-être entrer dans la vie sur un autre mode, pour vivre autrement. Et donc, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. La recette a l'air plutôt simple, sauf que il y a toujours au moins deux façons de lire un texte biblique, la pire et la meilleure. La pire, ce serait de dire qu'il suffit de suivre les règles aveuglément, surtout sans trop réfléchir, et de colorier sans dépasser, en quelque sorte. Et on peut tout à fait vivre comme ça. C'est une sécurité extrême de vivre comme ça, de suivre ce schéma-là qui dit « tu dois faire ça » et de ne pas se poser de questions. Sauf que ça n'est pas très vivant. et ça fait de Dieu un maître indifférent à la vie de ses serviteurs. Un Dieu qui se contente de compter les bons et les mauvais points avant de faire l'addition finale. Il y a sans doute une meilleure façon de lire ce texte en se demandant ce que c'est ces commandements dont parle Jésus. Le jeune homme pose justement la question. Il demande quel commandement il doit observer. Lorsque Jésus lui répond, c'est en évoquant les paroles que Dieu a transmises à Moïse sur le mont Sinaï, ce qu'on appelle dans la Bible les 10 commandements ou les 10 paroles. Il évoque l'interdit du meurtre, de l'adultère, du faux témoignage et du vol. Il rappelle l'honneur dû aux parents et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notons qu'il manque une chose à cette liste par rapport aux 10 commandements. Et assez ironiquement, parce qu'on parle d'un jeune homme riche, c'est ce qui concerne la convoitise. Ne pas convoiter ce que possède l'autre, ni chose, ni titre, ni position. En creux, par le silence qui souligne ce qui manque, Jésus appuie là où ça fait mal pour ce jeune homme. En fait, là où ça fait mal pour tout le monde. Qui peut dire qu'il n'a jamais souhaité posséder ce qu'un autre avait déjà? Nous passons notre vie à convoiter. Nous sommes bien obligés d'admettre que, sur ce point-là au moins, notre vie laisse à désirer par rapport au commandement de Dieu. En fait, c'est justement la fonction de la loi. Elle nous sert de miroir. Elle nous permet de constater que nous sommes bien concernés, que notre comportement n'est pas à la hauteur de nos exigences. Lorsque Jésus renvoie le jeune homme à la loi, la première chose qu'il fait, c'est donc de lui tendre un miroir. Ce que constate le jeune homme dans le miroir, c'est que d'avoir rempli beaucoup d'exigences, ce n'est pas avoir tout fait, ce n'est pas être parfait. Jésus aurait pu lui dire « Regarde-toi, tu as tout fait, tu as tout, et tu convoites encore. Tu possèdes plus que tu n'aurais pu rêver. Tu ne crains pas le lendemain, tu ne crains pas tes voisins, tu ne crains pas de manquer, ni d'avoir faim, ni d'avoir peur. Tu es en sécurité, grâce à tout ce que tu as, sauf que tu convoites. Ta sécurité t'empêche d'obéir à ce commandement-là. Tu as placé ta confiance dans ta sécurité, et ta sécurité t'empêche d'obéir. Il convoite la vie éternelle, et voilà que c'est cette convoitise qui l'empêche de l'avoir. Enfin, il faut souligner quand même que c'est absurde de convoiter la vie. La vie, ça ne se possède pas, ça s'habite plutôt. Comme un lieu, ou plutôt comme un lien. La vie éternelle, ce serait peut-être le lien à Dieu, déjà ici et maintenant. La confiance qui nous lie à lui. La parole qui nous lie à lui. Et là, nous abordons une autre fonction de la loi. C'est de désigner le lieu d'une autre confiance. Dans son dialogue avec le jeune homme riche, Jésus pourrait parler de convoitise et condamner le jeune homme face à la loi. Mais il ne le fait pas. Il n'assène pas une loi pour condamner celui qui lui fait face, comme nous, nous avons une fâcheuse tendance à le faire. Pas du tout. Plutôt que de condamner l'autre et de passer à autre chose, il le guide vers une autre façon de penser. Il se sert des commandements autrement. Pas comme une loi, mais comme une parole. Lorsque Jésus dit « Observe les commandements », il appelle le jeune homme à entendre une autre parole, qui ne vient pas de lui-même, à envisager une autre confiance, qui ne repose pas en lui-même. Il s'agit maintenant d'écouter, de se mettre à l'affût de quelqu'un qui parle. Il ne s'agit plus de choses à posséder, mais de quelqu'un à écouter. c'est complètement différent. Ça ouvre un horizon radicalement nouveau. Le jeune homme demandait « Que me manque-t-il encore ?» La réponse est peut-être « Du vide. » Juste un peu de vide. Pour qu'une parole puisse se frayer un chemin. Pour qu'une relation puisse se nouer, une confiance nouvelle s'installer. Il voulait être parfait et il a cru que faire toujours plus, avoir toujours plus, lui permettrait de s'approcher de la perfection. C'est exactement le contraire. C'est de laisser un peu de vide qu'il s'agit. De façon caractéristique, Jésus pousse le bouchon encore plus loin. Il demande au jeune homme de tout donner, de se débarrasser de tout. Pourquoi ? Si ça ne servait qu'à nous faire entendre qu'il importe de nous délester de nos fausses sécurités, de nos fausses confiances, ce serait déjà beaucoup. Mais ça n'est pas tout. Voilà ce qu'il dit. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Dépouille-toi, viens, suis-moi.
Vous êtes sur France Culture, à l'écoute du service protestant, le pasteur Pascal Renaud Grosbras nous parle d'une autre confiance.
Jésus parle au jeune homme riche et il lui dit « Observe les commandements ». « Là n'est pas ma confiance », lui répond le jeune homme. « Je fais déjà tout ça, je suis plein de tout ça, et la confiance m'échappe. » La réponse de Jésus, ce n'est pas un nouveau commandement. « Va, vends ce que tu as et viens. » C'est un nouveau lieu. Voilà que Jésus lui désigne le lieu d'une parole autre qui le décentre de lui-même. Si tu veux être parfait, va et dépouille-toi. Dieu, ce n'est pas toi. Parfait, tu ne le seras que si tu acceptes d'être un être humain, pas un Dieu, d'être simplement toi, d'être pauvre, sans héritage, sans passé, perdu, humain. Tu veux posséder la vie éternelle, dis-tu, mais tu ne la posséderas jamais. Il s'agit d'autre chose. Tu le savais, n'est-ce pas? Ta question grattait là où ça faisait mal. Je fais tout, je suis tout. Parfait, je le suis puisque j'ai tout fait, tout accompli, tout possédé, tout appris. Voilà ce que disait ta question. Tu croyais être tout. Va, dépouille-toi. Tu dis que tu as tout fait? Jésus te répond que la perfection est ailleurs. Il faut viser ailleurs. Pour être parfait, dit Jésus, il faut viser vers un ailleurs, un extérieur, vers quelque chose qui n'est pas toi-même et que tu ne peux pas posséder. Aime ton prochain comme toi-même, c'est ça aussi. Viser en dehors de toi quelqu'un qui n'est pas toi. Accepter de quitter ton camp à toi. Te déplier un peu. Tu peux bien croire posséder ta vie, ta confiance en toi-même, en tes valeurs, ta famille, tes certitudes et tes systèmes. Là n'est pas l'essentiel. Abandonne ce que tu crois être toi et regarde celui-là qui te parle et qui te montre un ailleurs. Va, dépouille-toi. Entre dans la vie avec Dieu. Deviens simplement humain et laisse-lui la part de la confiance. Va et dépouille-toi. Dépouille-toi de ta toute-puissance, de ta vie engoncée en elle-même. Avoir confiance en toi seul, est-ce que ça t'a vraiment réussi? Ça te rend tellement triste. Tu n'oses plus rien. Tu ne sais plus dire oui à la vie qui arrive. Tu possèdes et tu te possèdes. Mais dans quoi peux-tu rentrer avec toutes ces possessions? Le bagage est trop lourd, la porte est trop étroite. Et le chat de l'aiguille trop petit pour laisser entrer tout ça. Va, dépouille-toi. Ensuite, écoute celui qui te dit « Suis-moi ». C'est un humain, comme toi. Mais ce qu'il te promet, c'est la confiance de Dieu lui-même. Là où est ta confiance, là est ton Dieu. Vous savez, le premier geste d'un nouveau-né, c'est de s'agripper, c'est de lancer les bras en avant pour accrocher, happer quelque chose. Est-ce un désir de possession? Le premier geste pour amasser ce qui lui passera sous le nez? Ou est-ce pour chercher une présence autre que lui-même? Ce geste, il est vital, littéralement. Et le nouveau-né ne se pose pas de questions existentielles au moment où il lance ses bras en avant. Il a fait le pari de la vie. La vie l'a rejoint là où il était. Ce petit humain-là, on ne le prend pas dans nos bras parce qu'il est fiable et digne, mais parce qu'il est faible et petit. Ce n'est pas parce que l'humain est fiable que Dieu lui fait confiance. C'est parce qu'il l'a décidé dans son amour pour nous, pour chacun, chacune d'entre nous. Cette grâce que Dieu nous offre ne nous remet pas dans une boîte bien fermée, bien hermétique à tout. C'est tout le contraire. Cette confiance-là, cette foi-là, nous met en route. Elle nous jette sur des chemins inconnus, inattendus. Elle fait entrer dans notre vie un risque à vivre. Fabuleuse liberté. Pour le jeune homme riche qui, ce jour-là, a croisé Jésus, comme pour chacun de nous, ceci est vrai. Il y a une part de toi qui est libre, que tu le veuilles ou non. Il y a une part de toi qui est libre, que tu le saches ou non. Il y a une part de toi qui est libre, parce que Dieu a mis sa confiance en toi. Ni héritage, ni passé, ni richesse, ni rien qui te permette d'acheter le ciel, c'est une part de toi que tu ne soupçonnes pas, car tu ne la possèdes pas. La parole de Dieu est dans cette part cachée. C'est par là qu'agit sa confiance. C'est la grâce qu'il t'accorde. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Une autre confiance. C'était le thème de la méditation du pasteur Pascal Renaud Grosbras de l'Église protestante unie de France. Un grand merci à vous pour votre écoute. À la réalisation, Alexandre Manzanares. À la prise de son, Guillaume Ledu. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation et la télécharger, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Dès 9h, vous retrouvez la rédaction de France Culture pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.